France Musique.
Musique et moi.
Elisa Soua du Sapin.
Priscille Lafitte. France Musique.
Vera n'a jamais rapporté de traumatisme physique ni émotionnel. D'après les médecins, le plus probable reste la rupture d'anévrisme, même si c'est rare chez les enfants. L'orthophoniste nous a expliqué les différents cas de figure. L'aphasie peut prendre autant de formes que de personnes atteintes. Certaines comprennent les cris, mais ne prononcent plus rien de cohérent. D'autres disent « sapin » à la place de « patin ». Ou bien ne se rendent pas compte que leur propos n'a rien à voir avec ce qu'elles croient exprimer « j'ai froid » pour dire « je t'aime ». Pour l'entourage, l'attitude à adopter reste la même. Être patient, poser des questions simples auxquelles on puisse répondre en faisant oui ou non de la tête, parler lentement sans terminer les phrases à la place de l'aphasique, ni corriger ses erreurs. Mais comment faire avec une enfant? Comment différencier ce qui relève du handicap ou de l'apprentissage normal? Mon père a demandé si la raison pouvait être psychologique. Probablement pas. Cette incertitude reste, je crois, le plus douloureux pour moi. Je n'ai jamais pu cesser de soupçonner Vera de me couper délibérément l'accès à son intérieur.
La sixième des romances sans parole de l'opus 30 de Félix Mendelssohn, la romance surnommée La chanson du gondolier vénitien, interprétée ici par Julius Drake, pianiste très prisé pour ses talents d'accompagnateur de chanteur. Et ses romances sans parole, ses Lieder ohne Worte, et donc une belle mise en avant de ce pianiste qui peut donc faire chanter seul son piano. Bienvenue à vous, Elisa Soua du Sapin.
Bonjour.
Merci. d'être dans Musique et moi ce matin. C'est l'un des enjeux de votre roman, un roman qui vous a valu le prix Wepler à l'automne dernier, un roman qui s'intitule « Le vieil incendie », l'enjeu de rendre audible un personnage aphasique, une jeune femme qui ne parle plus depuis l'âge de 6 ans, la rendre audible en creux par ses gestes, ses sourires, ses mots. Vous nous en avez fait la lecture à l'instant, Elisa Soie-du-Sapin. Cette romance en paroles de Mendelssohn vous renseigne-t-elle un peu sur une façon musicale de faire chanter le piano sans l'aide d'une voix?
Je dirais que la musique, c'est une sorte de guide dans ma vie depuis longtemps, parce que ça a dû probablement être ma première école de l'écriture à travers le violon. Quand je parlais mieux coréen que français et que je devais apprendre le français, je pense que la langue m'est d'abord apparue comme des sons, une musique. Et c'est quelque chose qui m'est toujours resté, puisque Le vieil incendie, c'est mon quatrième roman. Avant ça, j'en ai écrit trois dans lesquels mes personnages parlent beaucoup de langues sauf le français. Et je crois que cette forme de distance par rapport à cette langue et l'auto-traduction, le fait d'imaginer ces autres sons qui s'entremêlent sans cesse, c'est vraiment une chose qui m'habite dans peut-être aussi une forme de fantasme d'essayer de faire s'exprimer mes personnages justement sans la parole, mais à travers d'autres choses. Et comme mon outil, c'est quand même les mots. J'essaye, d'utiliser cette matière comme la musique que je ne peux pas maîtriser de la même façon, malheureusement.
Est-ce que la musique est même plus compréhensible que certains mots?
Pour moi, c'est évident, dans le sens où il y a une forme d'instantanéité de l'émotion, alors qu'à travers la lecture, on doit passer par un processus d'intellectualisation. Et c'est peut-être une chose que j'essaye de gommer dans mon travail, mais forcément, il y a forcément cette distanciation nécessaire par l'acte de lecture. Et la musique, pour moi, c'est vraiment un moyen qui m'accompagne au quotidien, vraiment comme un modèle ou un idéal d'instantanéité ou d'impression ou de transfusion, comme une forme de transfusion sanguine. J'aimerais bien parfois pouvoir transfuser mes émotions directement, et c'est pas possible.
Dans le papier. Elisa Soie-du-Sapin, vous avez écrit donc quatre romans, dont Hiver à Sokcho, dont la traduction en langue anglaise a été saluée par la plus haute distinction littéraire américaine, le National Book Award, et donc ce dernier roman, Le vieil incendie, dont nous reparlerons au fil de cette émission. Mais pour faire votre portrait musical, vous l'avez déjà évoqué, il faut parler la langue du violon. Alors place à Ivry Gitlis.
Thank you.
Ivry Gitlis dans le concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski. C'est la canzonetta, le mouvement lent de ce concerto. À quelle sensation vous renvoie ce concerto?
Moi, je trouve que c'est difficile de parler dans cette émission après de la musique comme ça, parce que j'ai le souffle coupé. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je vous avais parlé de ce violoniste qui me touche en particulier, et dans ce morceau-là aussi, que ma mère écoutait sans cesse quand elle était enceinte de moi. Mais c'est une interprétation qui vraiment me bouleverse, parce que je crois que déjà cette manière d'utiliser le vibrato de manière vraiment très tendue, c'est peut-être un miroir du battement de mon cœur qui à l'instant bat très très fort. Et aussi je trouve qu'il a une manière d'attaquer les phrasés musicales avec vraiment beaucoup de conviction, et souvent évidemment pas de les interrompre, mais c'est comme si c'était une grande respiration qui s'interrompt très vite, et que la tension, voilà, c'est comme une sorte de ballon qui gonfle et qui se dégonfle avec une amplitude très vaste. Et pour moi, ça m'évoque le souffle qu'on reprend quand on nage avant de replonger entre chaque brassée. Et je crois que c'est quelque chose qui résonne peut-être aussi avec ma manière de travailler ou d'écrire, ou même d'être au monde. Souvent, je suis tellement saisie par des intensités émotionnelles que j'ai l'impression d'être pétrifiée, et il me faut vraiment un moment pour reprendre ma respiration avant de pouvoir continuer à vivre, en fait.
Et je vous êtes en apnée,
vraiment une forme d'apnée. Oui, et voilà, une interprétation comme celle de Gitlis, je pense que c'est sa image, ou c'est comme une métaphore de cette manière d'être au monde pour moi.
D'ailleurs, vous venez au monde avec le concerto déjà dans l'oreille, si je comprends bien. Le concerto de Tchaïkovski, dans quel monde justement arrivez-vous? Dans quel monde musical? Dans quel bain musical?
J'ai la chance d'avoir des parents qui écoutaient, à l'époque où je vivais avec eux encore, beaucoup de musique. Quand même principalement de la musique classique. Il y avait aussi beaucoup la radio qui était allumée, dans plusieurs langues aussi. Bon, mon père écoutait beaucoup de reggae. Ça, je me rappelle que c'était plutôt des souvenirs pour moi un peu lancinants, parce qu'il y avait en boucle comme ça des rythmes qui, je crois, qui ne me correspondaient pas, enfin qui correspondaient pas vraiment à mon intériorité. Mais effectivement, je pense que le violon résonnait beaucoup, alors que je ne savais pas de quel instrument il s'agissait. Et pour moi, c'est une anecdote d'ailleurs assez amusante, parce que apparemment, j'aurais dit à mes parents vers 5 ans que je voulais jouer du violon, et j'étais très convaincue, puisqu'ils m'ont emmenée chez un luthier pour trouver un violon. J'étais assez grande pour mon âge déjà, même à 5 ans, et j'ai commencé sur un demi. Mais je me rappelle d'être entrée dans cet atelier de luthier qui ressemblait à une sorte d'antre magique. Ça sentait la cellophane, la résine. Et j'ai eu l'impression de découvrir pour la première fois ce qu'était un violon. Donc en fait, j'étais très surprise. Et je me rappelle aussi d'être revenue avec ce tout petit instrument dans les mains et d'avoir aucune idée de comment ça se tient. Je me disais, bah tiens, peut-être qu'on le met tout à la fin du manche. Il y a cette ciselure comme ça. Je me disais, peut-être qu'il faut poser les doigts exactement dans cette courbe-là. J'avais même pas imaginé que, évidemment, en fait, cette main-là, il faudrait la poser non tout au bout, mais sur le manche et sur les cordes, bien sûr. Donc, c'est une anecdote qui m'est vraiment restée très présente alors que j'étais toute petite.
Yitzhak Perlman dans cette romance en fa mineur d'Anton Dvorak. Elisa Soie du Sapin, le violon a-t-il une voix à vos oreilles? Et si oui, la voix de qui?
Pour moi, c'est la voix. C'est la voix de tout un apprentissage. C'est un élément qui m'a tellement accompagnée dans le rapport aux autres, dans l'apprentissage d'une manière d'être avec les autres. Je crois que ça n'a jamais été naturel pour moi. Et ce morceau-là, j'étais très très touchée là, en l'écoutant, parce qu'il me ramène des années en arrière, quand la professeure de violon que j'avais à l'époque me l'avait donné pour préparer un concours. Et elle m'avait dit que cette pièce était un peu au-dessus de mon niveau encore, mais que justement j'allais beaucoup progresser en la travaillant. Et c'est un rapport très ambigu qui s'est développé avec cette pièce-là, parce que déjà il y a beaucoup de bémols à la clé, c'est difficile de trouver la justesse au violon dans cette interprétation-là. Et pour moi, c'est aussi un morceau qui symbolise vraiment toute l'ampleur du travail qui se cache derrière une fausse simplicité, parce que c'est quelque chose de lent, il y a pas en apparence c'est pas aussi virtuose que certaines pièces qui pourraient être comme ça très rapides avec plein de de sauts et gambades, mais justement pour moi c'était peut-être un des plus grands défis que de travailler sur cette question de la justesse. Mais quand je dis la justesse, c'est pas seulement de la tonalité, mais aussi vraiment, je dirais, se confronter à l'émotion de manière directe et pure, puisque le violon, il est posé sur notre cœur. Et en l'occurrence, quand je le travaillais, je me rendais compte que l'état émotionnel dans lequel j'étais influençait directement mon jeu, au point que parfois j'avais l'impression que les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Et si j'étais trop nerveuse, je pouvais plus entendre la musique, j'étais obnubilée par cette émotion qui me submergeait. Et quand je parle du fait que le violon a été aussi une école de mon rapport au monde et aux autres, c'est parce que quand j'étais petite, il a fallu passer par tout un processus d'intégration dans le Jura suisse, où par moments je vivais un racisme qui m'a par exemple forcée à changer d'école. Et je crois vraiment qu'à ce moment-là, je jouais déjà du violon. Le fait d'apprendre petit à petit à, pas à maîtriser, heureusement pas, mes émotions, mais à vraiment les apprivoiser petit à petit à travers ces heures et ces heures d'apprentissage, de jeu, de répétition, mais parfois jusqu'au dégoût. Parfois j'en avais tellement marre, j'avais de la corne partout. Je me rappelle qu'une fois j'avais presque du sang, parce que vraiment c'était un acharnement un peu pathologique, je crois, parfois, mais qui m'a en même temps, justement aujourd'hui avec le recul, appris aussi une forme de rigueur du travail. Et je crois vraiment que si aujourd'hui je suis capable d'arriver au bout d'un projet qui me semble tellement parfois difficile que celui d'écrire un roman, je le dois vraiment au fait que je sais comment travailler toute seule pour essayer de trouver cette question du rythme et de la justesse que je dois à l'apprentissage du violon.
Arriver à faire chanter un violon, hein, c'est juste ça aussi,
oui,
dans cette
romance. Effectivement, je m'estime vraiment malheureusement pas capable de faire chanter un violon, évidemment pas, en tout cas comme je l'aimerais, mais c'est d'ailleurs pour ça aussi que je continue d'en jouer un peu de loin en loin, mais vraiment pas de la... Pourquoi je continue? C'est une question qui me touche beaucoup, parce que quand j'ai eu 23 ans et que mon premier roman a paru, j'ai arrêté du jour au lendemain de jouer du violon, alors que j'en joue depuis que j'ai 5 ans. Et en fait, ça a été un soulagement. Je crois que justement, jusqu'à mes 23 ans, cette pratique du violon a été petit à petit associée quand même à quelque chose de l'ordre de trop de discipline, et surtout à une espèce de quête de perfection liée au fait que je voulais que mes profs soient fiers, je voulais évidemment être à la hauteur de tous ces interprètes que je trouve tellement merveilleux, mais c'était pas dans mes capacités. Et je crois que vraiment la publication de mon roman a été comme une sorte de sas d'oxygénation qui m'a permis de découvrir qu'il y avait aussi d'autres moyens de vivre et d'exprimer toute cette intensité émotionnelle que je porte en moi. Et en fait, après quelques années où j'ai vécu un peu aux quatre coins du monde, je suis revenue en Suisse. J'ai repris un appartement pour moi, et c'était la première fois que que j'emménageais en me disant « cette fois, je veux mettre toutes mes affaires au même endroit ». Et parmi ces affaires entreposées à droite à gauche, il y avait cette boîte à violon que je n'avais pas ouverte depuis presque un peu plus de 5 ans. Et ça m'a fait un choc de tout d'un coup le réouvrir en ayant l'impression de retrouver un ami perdu de vue de longue date qu'il fallait réapprivoiser, mais en même temps en ayant l'impression d'une immense familiarité. Et là, ça a été bouleversant parce que, en fait, c'était il y a un an et demi à peu près que ça s'est passé. J'ai retendu les cordes de cet archet, j'ai mis un peu de colophane, j'ai accordé le violon. Et je crois que pour la toute première fois de ma vie, alors que j'avais énormément perdu en technique et que j'étais, voilà, enfin, j'ai vraiment joué quelques notes, j'en ai eu des larmes aux yeux, en fait. Évidemment pas parce que ce que je produisais m'émouvait à ce point dans la beauté ou la perfection de quoi que ce soit, mais vraiment parce que, justement, j'avais l'impression que pour la première fois, je pouvais jouer sans chercher à être parfaite. Et depuis, je crois que je rejoue simplement pour me rappeler qu'on peut aussi avoir un rapport à la musique et à quoi que ce soit d'ailleurs sans chercher ça, et qu'en fait c'est une immense libération.
Le trio avec piano, les premières mesures de ce trio de Tchaïkovski en la mineure, Martha Argerich au piano, Guinon Kremer au violon, Misha Maïski au violoncelle. Elisa Soie du Sapin, vous m'avez donné l'impression à l'instant d'avoir été très seule quand même avec ce violon. Est-ce que vous avez quand même eu les joies de la musique d'ensemble, de la musique de chambre ?
Oui, j'ai connu ça et avec une joie immense. J'ai joué dans plusieurs orchestres, certains semi-professionnels, donc avec la chance aussi de côtoyer des solistes internationalement connus, et ça a été aussi un grand apprentissage. Là, je suis très heureuse d'avoir pu écouter ce trio parce que, en général, j'adore les trios. Il y a vraiment quelque chose avec la musique de chambre qui me correspond assez bien, puisque, en général, tout ce qui est d'une grande amplitude de volume, même si c'est une pièce que j'aime, je peux me sentir un peu agressée, simplement par l'intensité. Et la musique de chambre m'apaise plus grâce au fait qu'il y a peut-être moins d'intensité de vibration dans le nombre des instrumentistes. Et là, en l'occurrence, Misha Maïski, c'est un violoncelliste qui me touche beaucoup, mais qui a été peut-être un des premiers dont j'ai voulu retenir le nom quand j'étais petite, après l'avoir vu à un concert grâce à l'école. Et en fait, il jouait en agitant ses cheveux dans tous les sens. À un moment donné, il y avait des crins de son archet qui s'étaient arrachés. Il les arrachait entre deux coups d'archet et ça s'entremêlait avec ses propres cheveux. Et en fait, on était vraiment presque hilar, mais en même temps, évidemment, fascinés. Et là, le fait de le voir jouer avec Martha Argerich, qu'il connaît bien, ça me touche aussi parce qu'elle, je n'ai jamais rencontré, je l'écoute avec admiration depuis longtemps. Mais j'ai eu l'occasion, par contre, de coécrire avec sa fille Stéphanie Argerich une partie de son deuxième long métrage de fiction, il y a pas si longtemps que ça. Et on est devenus assez proches. Elle me racontait son enfance, notamment au Japon, avec Martha Argerich, et beaucoup d'anecdotes sur le fait qu'elle, par exemple, a vraiment grandi sur les genoux de Misha Maïski. Et en fait, je crois que, comme je le disais avant, j'ai commencé le violon presque par hasard parce que je ne savais même pas ce qu'était vraiment cet instrument à l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui, à 30 ans, je dirais avec un peu de recul, si j'avais la possibilité de recommencer l'apprentissage d'un instrument ou si je m'y relançais, j'apprendrais l'alto. Mais je crois que mon instrument préféré au monde, c'est le violoncelle.
J'entends que vous êtes sensible aux coups d'archet aussi, que ce soit chez Brigitte Lis, chez Yitzhak Perlman ou ici chez Misha Maïski. Vous êtes attentive au moment où l'instrumentiste cherche à les gommer ou au contraire les mettre en avant? Est-ce que ça vous parle?
Ah oui. Bon, ça me rappelle surtout des leçons de violon où vraiment... Je trouvais à la fois merveilleux et terriblement difficile ces moments où il faut tellement trouver la juste adéquation entre la vitesse de l'archet et l'intensité, par exemple, du vibrato. Il y a vraiment quelque chose qui est dans cette... C'est comme un dialogue, en fait, entre la main gauche et la main droite. Et la question du rythme s'ajoute aussi. Et pour moi, ça me rappelle pas forcément des souvenirs très heureux parce que quand j'étais toute petite, un de mes premiers professeurs avait décrété comme ça que j'avais pas de rythme en fait. Et je me rappelle que pour moi c'est qu'en fait je comprenais pas bien ce que ce professeur disait en français ou alors dans des expressions qui m'étaient vraiment hermétiques. Et comme je voulais bien faire, au contraire, en fait c'est juste que ça me paralysait et je n'arrivais pas du tout à jouer. Et je crois que ça m'a vraiment marqué dans le reste de ma vie, en tout cas de ma vie musicale, parce que je suis devenue un peu comme un mille-pattes qui pense sans cesse à ses pattes. Alors que, heureusement, plus tard, j'ai rencontré un autre professeur qui a réussi à me libérer de ça en me parlant par métaphore, en me parlant plus uniquement dans le jargon de la musique, mais en me disant, par exemple, pense juste à tes pieds qui s'enfoncent dans le sol, parce qu'en fait, tes mains, elles savent. Et ne réfléchis pas. Enfin, juste pense à rien, pense juste à tes pieds qui s'enfoncent dans le sol. Et tout d'un coup, je me disais, mais c'est incroyable. En fait, quand je pense juste à mes pieds, mon violon, il sonne et mes mains, elles font ce qu'elles doivent faire. Et cette fameuse adéquation rythmique entre le rythme de la main droite avec cet archet et cette main gauche qui, elle, a la technique sur le manche avec toutes les positions différentes qui parfois passent très vite de l'une à l'autre. En fait, je savais même pas que je pouvais aussi bien, entre guillemets, les maîtriser à l'époque, en pensant à rien d'autre qu'au poids de mon corps dans le sol. Donc ça a été aussi, là encore, une forme d'apprentissage de vie, je crois, la question de l'ancrage, que d'ailleurs j'ai pas vraiment au niveau culturel, puisque je suis d'origine métissée entre la Corée du Sud, la Suisse alémanique, la Suisse romande, la France. Et encore aujourd'hui, je pense parfois à cette question du rythme comme quelque chose qui a été très marquant dans ma vie.
Madame, nous sommes plusieurs sur la ligne, rapprochez. Vous êtes avec une abonnée. Madame, rapprochez. chez vous-même. Allô, mademoiselle. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmidt. 08, pas 07. Allô? C'est ridicule. On me demande. Je ne sais pas. Allô? Mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Comment ma faute? Pas du tout. Allô, mademoiselle? Dites à cette dame de se détirer. De t'entendre à travers tout ce monde. Oui. Oui. Non. C'est une chance. Je rentre il y a 10 minutes. Tu n'avais pas encore appris. J'ai dîné dehors, chez Marthe. Il doit être 11h15, tu es chez toi.
Nous ouvrons avec Barbara Nigan le chant de la voix, de l'incarnation, avec cette voix humaine de Francis Poulenc sur le texte de Jean Cocteau, enregistré au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris, enregistré le 6 janvier 2021. Vous, Elisa Soit-du-Sapin, vous avez pris connaissance de cette version sur vidéo ou à l'audio ?
Sur vidéo. Et j'avais été complètement impressionnée par la manière que la chanteuse avait de diriger cet orchestre tout en interprétant cette voix. Et c'était pour moi quelque chose de tellement symbolique de la... Enfin, à plein de niveaux, en fait. Déjà, du dialogue entre la voix et la musique, mais aussi presque l'incarnation de la question du non-dit ou du sous-texte ou de ce qui se dit en creux. Ou par le silence, et ce que ça peut éveiller en capacité d'imagination, à la fois ici de l'auditeur, mais aussi du spectateur, et dans mon cas en tant qu'écrivaine, du lecteur. Je crois que tout ça, ce sont des éléments qui sont tellement mon matériau de travail principal que cette pièce-là, que j'adore, et j'aime énormément Francis Poulenc, mais vraiment, et l'univers aussi poétique de Cocteau, me touche. Oui. Et je crois que là, il y a vraiment une sorte de synthèse de tout ça qui fait que cette pièce-là, au-delà du fait que une de mes meilleures amies est cantatrice et l'a aussi chantée. Voilà, c'est une pièce qui me touche et à laquelle je pense très souvent aussi.
Parce qu'il y a l'ellipse de la voix de l'amant qu'on n'entend jamais, qu'on devine, ce sous-texte hein, dont vous parliez
dans
l'écriture de Cocteau.
C'est une voix qui, voilà, cette femme qui s'adresse à son amant, mais on n'a pas la réponse de l'interlocuteur. Et je trouve que c'est quelque chose qui est profondément audacieux, surtout pour l'époque à laquelle cette pièce a été imaginée. Et
écrite en 1930. Mais j'ai l'impression aussi, à la lecture notamment du Vieil Incendie, Les Assoies du Sapin, qu'il y a aussi des ellipses chez vous. Et vous me parliez aussi de rythme à l'instant, et ça m'avait frappé au moment de la lecture de ce roman, combien, dans un même paragraphe, entre deux phrases, parfois le temps s'accélère, au tempo de gestes simples, et puis ensuite il ralentit, il s'étire, au gré d'un toucher, d'un goût, d'une odeur, les sensations sont très présentes. Vous êtes consciente de ces ellipses ou elles viennent par un rythme intérieur d'écriture ?
Elles viennent surtout par la question de l'empêchement pour moi. C'est que les mots ne me viennent pas facilement du tout. Je dois plutôt aller les chercher très loin au fond de moi. Et en l'occurrence, dans Le Vieil Incendie, c'est pas anodin que un des deux personnages soit aphasique. Je crois que c'est apparu parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin, après trois romans qui se passent en Extrême-Orient du côté maternel, de revenir à quelque chose de franco-français, qui est mon côté paternel. Et surtout d'essayer d'avoir un rapport à la langue française qui ne soit pas un enjeu linguistique. Parce que je me sens parfois toujours un peu illégitime à écrire dans cette langue, alors que le coréen est ma première langue maternelle, mais que j'ai petit à petit perdu. Donc voilà, c'est vrai que je me suis aperçue que, en fait, je n'avais pas réussi dans ce dernier roman, à faire de la langue française quelque chose qui n'est justement pas un enjeu. Mais ce qui est apparu, c'est donc ce personnage qui ne parle pas. Et toute la question, c'était de réussir à le faire parler sans les mots.
Comme l'amant chez Cocteau.
Oui, exactement. Qui n'était même pas une référence consciente à l'époque, mais quand j'ai préparé notre entretien, la voix humaine est apparue tout de suite et c'est vraiment en arborescence que j'ai fait des liens après coup en me disant mais bien sûr, en fait, si je suis à ce point touchée par cette pièce, c'est probablement parce qu'il y a aussi cette question de l'absence, de l'imaginaire en creux et peut-être aussi de cette fameuse voix, alors en l'occurrence dans le personnage de Vera, cette voix absente, mais aussi peut-être parce que c'est une voix qui m'impressionne. La langue française ou la langue d'écriture m'impressionne, je me sens toujours toute petite face à tout ça. Et en fait, la voix comme instrument de musique, la voix comme résonance, c'est peut-être même, avant je parlais du violoncelle, mais c'est probablement la voix humaine avant tout qui me bouleverse. Et d'ailleurs, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble avoir entendu dire que le violoncelle était un des instruments, ou peut-être le seul, ça je sais pas, mais qui a une fréquence identique à celle de la voix humaine. Donc,
et dans la tessiture.
Et dans la tessiture, justement. Ouais. C'est peut-être pas pour rien que c'est aussi mon instrument préféré.
Mais je cherchais particulièrement à souligner combien aussi votre écriture peut être à la fois fluide et très saccadée. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Et il y a quelque chose peut-être de similaire aussi dans l'écriture conjointe de Poulenc et de Cocteau dans cette voix humaine.
Oui, alors j'imagine que là encore, c'est intuitif et inconscient, mais en fait, je me rends compte que je m'enthousiasme là en parlant parce que je crois vraiment que j'écris avec l'intuition et un immense magma émotionnel, mais certainement pas avec mon intellect. Et en ça, c'est exactement le même rapport que j'ai à la musique. Je crois vraiment que quand je suis à l'instant précis de l'écriture, mon cerveau conscient est complètement déconnecté. En revanche, je crois que ce qui se passe mobilise des zones en moi très proches de ce qui se passe dans l'attention à la musique, c'est-à-dire vraiment le rythme, le phrasé, la ponctuation. Mais bon, d'ailleurs, là, c'est drôle, on est vraiment au croisement d'un même vocabulaire. Et l'attention, C'est vrai, mais quand j'étais à l'université, parfois je faisais des analyses de textes en superposant des formes musicales parce que ça me permettait d'imaginer beaucoup mieux. Je disais, bah, vous voyez, là, ce texte de Marine Diaye est construit comme une fugue. On a l'élément qui revient et je mettais des couleurs, je montrais la partition et le texte. Et ça me paraissait très évident de faire comme ça, beaucoup plus que d'essayer de mettre des mots de linguistique très compliqués qui, en fait, pour moi, ne faisaient référence à pas grand-chose.
Thank you.
finale du trio avec piano de Fanny Mendelssohn-Hensel, par le trio Chausson. Elisa Soulis-Sapin, est-ce que vous cherchez à comprendre dans quel état d'esprit pouvait se trouver une femme compositrice comme Fanny Mendelssohn, sœur de Félix au XIXe siècle, pour coucher sur le papier des idées musicales et finalement oser prendre la parole? Est-ce que vous comprenez? Chercher à comprendre, en tout cas.
Oui, chercher à comprendre, ce serait plus juste, parce que comprendre, je pense que j'en suis bien incapable, dans le sens où moi, j'ai la chance d'avoir relativement toujours pu m'exprimer sans qu'on m'opprime ou m'oppresse. Et là, je le dis de manière vraiment très générale par rapport à toutes les causes qui me touchent énormément aujourd'hui. Et ça résonne avec ma découverte de l'œuvre de Fanny Mendelssohn quand j'étais adolescente. J'étais sensible, je pense, plus avant que maintenant au travail de son grand frère, Mendelssohn. Et un jour, j'ai écouté donc des pièces qui m'ont vraiment bouleversée. Et je me disais, bah, tiens, c'est drôle. En fait, il me semble que je ne connaissais pas celle-ci de Mendelssohn. Et on m'a dit, mais non, mais c'est pas Félix, mais c'est sa sœur. Et quand j'ai appris qu'il avait une sœur qui avait comme ça composé, et en fait, en creusant un peu la découverte de son travail à elle, je me suis aperçue que j'y étais plus sensible. Et je crois que ça m'a profondément révoltée d'apprendre qu'elle n'avait pas eu toute l'amplitude possible pour développer son travail, peut-être à part dans de rares moments. Je sais qu'elle a été à Rome, je crois, où là, elle a pu, de manière plus indépendante, travailler. Mais... voilà, au-delà de ça, c'est vrai que c'est peut-être une des figures qui constitue un de mes modèles sous-jacents dans la vie, dans l'énergie de conviction, de résilience, mais aussi de volonté, en fait, de continuer coûte que coûte à faire ce qu'on doit faire, quoi qu'il se passe, et quel que soit le niveau de reconnaissance qu'on peut avoir sur le moment. Je crois que moi, j'ai beaucoup besoin de modèles, et elle fait partie comme ça de mon panthéon de femmes.
Elisa Soulis-Sapin, vous parliez juste auparavant de votre goût pour la comparaison entre l'analyse littéraire et l'analyse musicale. Est-ce que vous avez aussi été tentée, vous, par l'écriture musicale, ou c'est quelque chose qui ne vous a pas traversé?
Non, jamais, jamais, jamais. Simplement parce que déjà, je suis très mauvaise à la lecture des notes. Et ça peut paraître paradoxal, j'ai vraiment... j'ai grandi avec ça. Mais... Je ne crois pas être dyslexique, mais j'ai vraiment un problème de perception de ces signes dans mon cerveau, alors qu'il doit y avoir quelque chose d'un peu synesthésique. Pour moi, les notes, ce sont des couleurs, vraiment des vraies couleurs. Le sol, par exemple, il est bleu. Le vert, il est... d'ailleurs, je dis le vert, ré, c'est vert pour moi. La jaune et mi, c'est rouge. Et quand j'ai commencé à comprendre ça... J'ai mis en fait des couleurs sur mes partitions, et avec ça, c'était beaucoup plus facile. À un moment donné, et après, j'apprenais très vite par cœur. Donc parfois, même en orchestre, je jouais les yeux un peu mi-fermés. Comme ça, j'étais moins perturbée par les notes, mais vraiment par le souvenir coloré et imagé que j'avais dans ma tête de la partition. Donc d'une part, il y a ça, mais aussi simplement le fait que je crois que je n'ai vraiment aucune capacité et compétence à imaginer de la musique.
Mais est-ce que vous avez aussi un rapport de synesthésie avec les mots?
Bien sûr, je crois vraiment que ça se ressent en partie dans mon travail littéraire, dans l'association de certaines images ou des adjectifs avec... Et ça, je m'en suis rendu compte aussi avec mon éditrice. Un jour, elle m'a dit, mais tel adjectif, tu sais que ça ne peut pas décrire une je dis n'importe quoi. Enfin, cet adjectif-là décrit quelque chose de intangible. Et là, et puis en fait, je me suis dit, ah bah tiens, en fait, c'est vrai, mais... Mais pour moi, c'est comme ça, donc j'aimerais bien qu'on le garde. Et finalement, on l'a gardé. Et je crois que c'est devenu une forme de, pas une marque de fabrique, mais en tout cas quelque chose qui constitue ma langue.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
La plus grande chose à apprendre est d'aimer et d'être aimé en retour. Merci beaucoup, Elisa Soie du Sapin, d'être venue avec Nat King Cole pour clore ce Musique et moi. Votre dernier ouvrage, Le Vieil Incendie, apparu aux éditions Zoé. Merci à toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et moi. Lucas de Rhodes à la technique, Émilie Vala à la réalisation, Maud Nourry, attachée de production. Passez un très bon dimanche sur France Musique. À la semaine prochaine, 11h, pour de nouveaux émois musicaux.
Is just to love and be loved in return.
À réécouter sur francemusique.fr.